Dixième soirée, nous lisons Ésaïe chapitre 1er. La vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, qu'il a vu touchant Juda et Jérusalem au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Écoutez, cieux, et prête l'oreille, terre, car l'Éternel a parlé. J'ai nourri et élevé des fils, et ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple n'a point d'intelligence. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de gens qui font le mal, fils qui se corrompent, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez-vous encore frappés? Vous ajouterez des révoltes. Toute la tête est malade et tout le cœur défaut. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain. Tout est blessure et meurtrissure et plaie vive. Elles n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, votre terre des étrangers la dévore devant vos yeux, et elle est dévastée comme ruinée par des étrangers. Et la fille de Sion est laissée comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié d'holocauste, de bélier, et de la graisse de bêtes grasses, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux, et des boucs. Quand vous venez pour paraître devant ma face, qui a demandé cela de vos mains, que vous fouliez mes parvis? Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes, l'encens m'est une abomination, la nouvelle lune et le sabbat, la convocation des assemblées. Je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Vos nouvelles lunes et vos assemblées, mon âme les hait. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand même vous multiplieriez la prière, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions. Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez des biens du pays. Mais si vous refusez et que vous soyez rebelles, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture. La justice habitait en elle, et maintenant des meurtriers. Ton argent est devenu des scories, ton vin est mêlé avec de l'eau, tes princes sont rebelles et compagnons de voleurs. Chacun aime les présents et court après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve n'a pas accès auprès d'eux. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le puissant d'Israël, dit « Ah, je me satisferai en mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis, et je tournerai ma main sur toi, et je te purifierai de tes scories comme avec de la potasse, et j'ôterai tout ton étain, et je rétablirai tes juges comme au commencement, et tes conseillers comme dans les premiers temps. Après cela, tu seras appelé ville de justice, cité fidèle. Sion sera rachetée par le jugement, et les siens qui reviennent par la justice. Mais la ruine des transgresseurs et des pécheurs arrivera en une fois, et ceux qui abandonnent l'Éternel seront consumés, car ils auront honte des térébintes auxquelles vous avez pris plaisir, et vous rougirez des jardins que vous aurez choisis, car vous serez comme un térébinthe dont la feuille se flétrit, et comme un jardin qui n'a pas d'eau. Et le fort sera de l'étoupe, et son œuvre une étincelle, et tous deux brûleront ensemble, et il n'y a personne qui éteigne. Même sujet que le précédent, c'est-à-dire promesse absolue de bénédiction pour Israël. Quelques passages des livres saints que je n'ai pu citer la dernière fois sur la destinée des Juifs, spécialement des passages des petits prophètes, cloueront la prophétie historique qui concerne ce peuple. Je dis historique parce que la prophétie est l'histoire que Dieu nous a donnée de l'avenir. Je vous rappellerai une circonstance très importante en parlant des Juifs. C'est que leur histoire est spécialement la manifestation de la gloire de l'Éternel. Demander en quoi toute cette histoire nous concerne-t-elle, c'est dire que m'importe ce que mon Père veut faire pour mes frères, et quand nous voyons combien ce sujet occupe de place dans la parole de Dieu, nous devons être convaincus que la chose est extrêmement chère au cœur de Dieu. Si elle ne l'est pas au nôtre, c'est dans ce peuple, par les voies de Dieu envers ce peuple, que le caractère de l'Éternel est pleinement révélé, que les nations connaîtront l'Éternel et que nous apprendrons nous-mêmes à le connaître. Une même personne peut être roi d'un pays et père de famille, et voilà la différence entre ce que Dieu a été envers l'Église et ce qu'il a été envers les Juifs. Envers l'Église, c'est le caractère de Père. Envers les Juifs, c'est le caractère de l'Éternel. Sa fidélité, son immutabilité, sa toute-puissance, son gouvernement de toute la terre, tout cela est révélé envers Israël. C'est pourquoi l'histoire de ce peuple nous fait connaître l'Éternel. Psaume 126. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, c'est alors qu'on dira parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses. Voyez sur le même objet, Ézéchiel 39, versets 6 et 7. Et j'enverrai du feu dans Magog et parmi ceux qui habitent les îles dans la sécurité, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. Et je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Mais les nations apprendront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Verset 28. Alors ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, quand, après les avoir emmenés vers les peuples, je les rassemblerai dans leur terre, et que je n'en laisserai plus aucun d'eux en arrière. Voilà par quel moyen l'Éternel se fait connaître. Le Père se révèle à nos âmes par l'Évangile, par l'Esprit d'adoption, mais l'Éternel se fait connaître par ses jugements, par l'exercice de sa puissance sur la terre. J'ai dit que le Père se fait connaître par l'Évangile, parce que l'Évangile est un système de pure grâce, un système qui nous enseigne à agir d'après le principe de la pure grâce. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas ce que la justice demande, la loi du talion. C'est un principe d'après lequel je dois être parfait comme mon Père est parfait. Il n'en est pas ainsi du gouvernement de l'Éternel. L'Éternel bénira sans doute les nations, mais le caractère de son règne est que le jugement retournera à la justice. Psaume 94, verset 15. Lors du premier avènement de Jésus-Christ, le jugement était en Pilate et la justice en Jésus. Mais quand Jésus reviendra, le jugement s'unira à la justice. Maintenant, le peuple de Christ, les enfants de Dieu, doivent suivre l'exemple du Sauveur, c'est-à-dire ne pas attendre que le jugement soit selon la rigueur de la justice, mais être doux et humble au milieu de toutes les injures qu'ils éprouvent de la part des hommes. Unis à Christ, ils en sont dédommagés par la puissance de son amour intime qui les soulage par les consolations de la présence de son esprit et de plus par les espérances d'une gloire céleste. D'un autre côté, l'Éternel nous console par une action directe de sa justice en faveur de son peuple et en le rétablissant dans la gloire terrestre. Les Juifs, voilà donc le peuple par lequel et dans lequel Dieu établit son nom d'Éternel et son caractère de jugement et de justice. L'Église, voilà le peuple dans lequel, comme dans sa famille, le Père manifeste son caractère de bonté et d'amour. Qu'arrivera-t-il aux Juifs dans les derniers temps? C'est ce que nous avons déjà considéré dans Jérémie 30 à 33 et dans Ézéchiel 36 à 39. Où nous voyons une série de promesses et de révélations sur ce point. Je vous citerai quelques autres passages sur le même sujet en suivant l'ordre des prophètes dans la Bible. Daniel chapitre 12, verset 1. C'est par la présence de celui qui agira pour le peuple de Daniel, c'est-à-dire pour le peuple juif. Je désire vous faire remarquer quelques traits de cette prophétie. Premièrement, Dieu, dans sa puissance, par le ministère de Michaël, tiendra ferme pour les enfants du peuple de Daniel, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en aura jamais eu. C'est ce qui nous explique ce qu'on lit en Matthieu 24 et en Marc 13. La résurrection, verset 2, s'applique aux Juifs. Vous trouverez exactement les mêmes expressions dans Ésaïe 27, « Tes morts vivront » et dans Ézéchiel 37, verset 12. C'est une résurrection figurée du peuple enseveli comme nation parmi les gentils. Les uns ressusciteront pour l'opprobre et l'infamie éternelle, c'est ce qui arrivera aux Juifs, Ésaïe 66, verset 24. En un mot, d'une part, Dieu tenant ferme pour son peuple dans un temps de détresse, et de l'autre, un résidu délivré, voilà le sommaire du 12e chapitre de Daniel. Dans Osée, chapitre 2, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre, nous voyons que le Seigneur recevra Israël, l'introduira dans son pays après l'avoir humilié, mais lui avoir aussi parlé selon son cœur, qu'il le rendra tel qu'il était au temps de sa jeunesse, que l'Éternel fera une alliance avec lui, le bénira de toute manière dans cette terre et l'épousera à toujours. Et depuis, il y a une chaîne non interrompue de bénédictions depuis l'Éternel jusqu'au bien terrestre répandu en abondance sur Israël, qui est la semence de Dieu, car c'est la force du mot Jisraël. C'est pourquoi il est ajouté, je la sèmerai pour moi en la terre, car Israël deviendra le moyen de bénédiction pour la terre, comme la vie d'entre les morts. Maintenant, tout est entravé par le péché. Voilà les malices spirituelles dans les lieux célestes et toutes sortes de misères qui sont accompagnées sans doute de bien des miséricordes. Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime, mais au temps d'alors, il y aura plénitude des bénédictions terrestres. Osée, chapitre 3, versets 4 et 5. Car les enfants d'Israël demeureront longtemps sans roi et sans gouverneur, sans sacrifice et sans statut, sans éphod et sans téraphin. Puis les enfants d'Israël se convertiront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et recourront à l'Éternel et à sa bonté dans les derniers jours. Ils n'auront ni vrai Dieu ni faux Dieu, mais après cela, ils rechercheront l'Éternel et David, c'est-à-dire le bien-aimé Christ. Joël, chapitre 3, versets 1, 16 et 18, 20, 21. Après avoir parlé des nations lors du retour de son peuple de la captivité, dans des versets cités auparavant à l'occasion du jugement exercé sur les gentils, Dieu parle dans ceux-ci des Juifs. Jérusalem sera nettoyée. L'Éternel habitera en Sion. Il sera l'asile de son peuple et la force des enfants d'Israël. Voilà ce qui arrivera quand le jugement de Dieu viendra sur les nations. Amos, chapitre 9, versets 14 et 15. Et je ramènerai de la captivité mon peuple Israël, et je les planterai dans leur terre, et ils n'en seront plus arrachés. Cela n'est pas encore accompli. Ce qui précède ces versets est cité dans le 15e chapitre des Actes. Non pour démontrer que la prophétie fut alors accomplie, mais que Dieu avait de tout temps posé le principe d'un peuple pris parmi les gentils. C'est-à-dire que le langage des prophètes concordait avec ce que Simon-Pierre racontait que Dieu avait fait dans ce temps-là. Ce n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais l'établissement d'un principe par la bouche des prophètes comme par celle de Simon-Pierre. Michée, chapitre 4, versets 1 et 8. Cela n'est pas non plus accompli. Nous voyons là une topographie de Jérusalem et sa première domination rétablie. Chapitre 5, versets 4 à 8. Nous voyons le nom de Christ devenir bientôt grand jusqu'au bout de la terre, Israël être la pluie de la bénédiction divine partout, et sortir vainqueur de tout ce qui s'oppose à lui. À l'occasion de Michée, vous pouvez remarquer, en rappelant le principe déjà établi, la manière dont l'esprit de prophétie mentionne, versets 19 et 20, les promesses faites au Père sans condition. Sophonie, chapitre 3, verset 12, jusqu'à la fin. Quel langage nous avons ici ? Il est dit que Dieu se tait à cause de son amour. Il est tellement ému qu'il se tait. Qui est-ce que cela concerne ? Voyez, verset 13, les restes d'Israël ne commettront plus l'injustice, ne parleront plus avec tromperie, et leur bouche ne sera plus une langue trompeuse, mais ils reposeront comme les brebis en leur pâturage, sans que rien les trouble. L'Éternel est au milieu d'eux, personne ne peut les effrayer. Zacharie, chapitre 1, versets 15 à 21. Nous voyons là aussi les quatre monarchies qui ont dissipé Israël, dissipées elles-mêmes par la puissance et par les jugements de Dieu. Chapitre 9, verset 9. Jusqu'à la fin. Réjouis-toi, fille de Sion, sois dans la jubilation, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. On peut dire que cela est déjà accompli, mais en partie seulement. Il est à remarquer que quand le Saint-Esprit cite cet endroit de Zacharie, il en nommait ces mots, le juste et qui se garantit par lui-même. Jésus, en effet, ne s'est pas ménagé. Lorsqu'on lui disait avec dérision, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », il n'en a rien fait. Il ne s'est pas soustrait à la douleur, loin de se garantir lui-même, Il a été notre garant. Chapitre 10, verset 6 jusqu'à la fin. Quand est-ce qu'Israël a été comme si l'Éternel ne l'avait pas rejeté? Jamais. Maintenant, nous allons voir que le peuple d'Israël sera rétabli dans sa terre, mais qu'il n'y aura qu'un résidu qui sera conservé. Zacharie, chapitre 12, il y a des fautes de traduction, mais dont je n'ai pas à m'occuper maintenant. Le verset 2 mentionne un temps de guerre, même de toutes les nations contre Israël. Mais Dieu fortifiera Israël d'une manière extraordinaire, et les nations seront détruites, et l'esprit de grâce et de supplication sera répandu sur le résidu d'Israël, qui contemplera avec le cœur pénétré de douleur le Messie qui l'a percé. Je reprends Ésaïe, chapitre 18, dont la prophétie dans la traduction française me présente quelques difficultés, mais son grand objet est trop évident pour être obscurci par quelque traduction que ce soit. Les fleuves de Cush sont le Nil et l'Euphrate. Les ennemis d'Israël étaient sur ces deux fleuves dans la période biblique de leur histoire. Or, dans cette prophétie, voilà un pays qui est au-delà de ces fleuves, un pays éloigné qui n'était pas encore en relation avec Israël dans les temps passés. Le prophète a donc en vue un pays qui devait exister plus tard. Verset 3. Dieu appelle tous les peuples du monde habitable à en prendre connaissance. Voici que toutes les nations s'occupent d'Israël. Elles sont sommées de la part de Dieu de faire attention à ce qui se passe au sujet de Jérusalem. Elles sont toutes intéressées à son sort. Le monde est convié à assister aux jugements qui vont avoir lieu. En attendant, Dieu demeure tranquille et laisse agir les peuples. Israël commence à retourner dans sa terre. Voilà une description d'Israël rentrant en Judée à l'aide de quelques nations éloignées de ce peuple, laquelle n'est ni Babylone, ni l'Égypte, ni d'autres nations qui s'occupaient d'Israël dans les anciens temps. Je ne dis ni que ce soit l'Angleterre, ni que ce soit la France ou la Russie. Les Israélites rentrent dans leur pays, mais Dieu ne s'en occupe pas. Israël est abandonné à ses nations, et quand tout s'annonce, comme s'il allait fleurir et prospérer de nouveau, voilà que ses rejetons et ses branches sont retranchés et sont laissés tout l'été et tout l'hiver aux oiseaux de proie et aux bêtes féroces qui désignent les gentils. Néanmoins, en ce temps-là, un présent de ce peuple sera apporté à l'Éternel de la part de ce peuple dans la demeure de l'Éternel des armées en la montagne de Sion. Psaume 126, verset 4. Ô Éternel, ramène nos prisonniers. Sion et Juda seront ramenés les premiers. Les captifs de Sion étaient déjà ramenés quand cette prière fut présentée à Dieu, verset 1. Mais ce sont les arts de ce que Dieu fera en ramenant tout Israël. Je dois vous dire quelque chose quant à cette destruction d'Israël et de Juda. Premièrement, nous voyons les Juifs rassemblés, ces Juifs qui ont rejeté Jésus, qui sont coupables de la mort de Jésus. Vous savez que les 10 tribus n'ont jamais été coupables de ce crime. Il y a une différence remarquable dans la nation. Les 10 tribus ont été dispersées avant l'apparition des 4 monarchies. Ce sont les Assyriens qui ont emmené captifs les 10 tribus avant que Babylone existât comme empire. Une circonstance relative à une tribu juive qui vit au milieu des Arabes nous est racontée par M. Wolf, qui l'a visité dans ces derniers temps. Ces Juifs disent d'eux-mêmes qu'ils sont une tribu qui n'a pas voulu rentrer en Juda avec Esdras, parce qu'ils savaient que ceux qui rentreraient avec Esdras devaient retrancher le Messie. Ils sont restés où ils sont. Quand même la tradition serait fausse, l'existence d'une tradition semblable dans une tribu est extrêmement remarquable. Quoi qu'il en soit, une chose est vraie, c'est que les Juifs ayant rejeté le Christ seront assujettis à l'Antichrist. Ils feront une alliance avec le sépulcre et la mort, Ésaïe 28. Mais leur alliance anéantira toutes leurs espérances. S'étant réunis à l'Antichrist, ils subiront les conséquences de cette ligue et enfin seront retranchés. Les deux parties des habitants de toute la terre seront retranchées. Elles le seront dans le pays même d'Israël après leur retour. Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 20, versets 32 à 38, vous verrez qu'il en est tout autrement des dix tribus. Au lieu de deux parts retranchées dans le pays, les rebelles n'entrent pas du tout dans le pays. Dieu fait envers eux ce qu'il a fait à Israël lors de sa sortie d'Égypte. Il les retranche avant leur entrée dans le pays. Il y a donc deux catégories de juifs dans ce retour. Il y a premièrement la nation juive proprement dite, c'est-à-dire Juda et ceux qui sont allés avec Juda, qui ont rejeté le vrai Christ. Ils seront réunis à l'Antichrist et deux parts seront retranchées dans la terre. Secondement, ceux des dix tribus seront aussi retranchés en partie, mais dans le désert, avant d'entrer dans le pays. Matthieu chapitre 23, versets 38 et 39. Ce jugement que Jésus a porté sur ce peuple lui-même nous fait comprendre la certitude de la venue du Seigneur pour rétablir Israël et régner au milieu de lui. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, votre maison va devenir déserte jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Israël verra Jésus, mais quand cette parole du psaume 118, verset 26, sortira de sa bouche, ce psaume présente le tableau de la joie d'Israël en ce temps-là, et c'est de là que le Seigneur a tiré le jugement qui est porté sur les conducteurs juifs lorsqu'ils le rejettent. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue maîtresse pierre du coin. C'est cette joie, cette salutation que Dieu a mise dans la bouche des petits-enfants qui célébraient le Sauveur dans le Temple, précurseur de ceux qui, dans les temps dont nous parlons, recevront des cœurs de petits-enfants et reconnaîtront le Sauveur jadis rejeté par leur Père. C'est ce psaume qui célèbre la joie et la bénédiction d'Israël due à la fidélité de l'Éternel, tout en signalant le péché de cette nation dans le rejet de la pierre qui devait constituer le fondement de Dieu en Sion, mais qui devenait aussi, par l'infidélité de cette nation, pierre d'achoppement et de jugement. Outre ces deux classes d'Israélites qui reviendront sous la conduite de la Providence, mais aussi de leur propre volonté, le Seigneur, après son apparition, assemblera d'entre les gentils les élus de la nation juive qui seront encore parmi eux, et ce rappel se fera avec grande bénédiction. Voir Matthieu 24, verset 31, comparer Ésaïe 27, versets 12 et 13, et chapitre 11, versets 10 à 12. J'ajoute ici deux principes très simples et très clairs qui distinguent toutes les bénédictions précédentes, le retour de Babylone, par exemple, d'avec l'accomplissement des prophéties que nous venons d'examiner. Ces deux principes sont 1. Que les bénédictions découlent de la présence de Christ, fils de David, et 2. Qu'elles sont une conséquence de la nouvelle alliance. Ni l'une ni l'autre de ces conditions n'ont été remplies lors du retour de Babylone, ni jusqu'à ce jour. L'Évangile ne s'occupe pas des bénédictions terrestres des Juifs, dont il est question dans ses prophéties.